Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor. Web.
Des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ce handicap-là dont on va parler. Aujourd'hui, on accueille Emeline en master de physique à l'UNS de Lyon et qui est malentendante. Bonjour Emeline.
Bonjour.
Une question que je pose toujours, c'est comment tu te définis ? Est-ce que tu as l'impression que le mot handicap te correspond ? Est-ce que tu préfères le mot de maladie, de trouble, de différence ? C'est quoi le mot qui te parle le plus ?
Alors c'est vrai que moi sur le papier je suis handicapée, parce que du coup j'ai une carte de mobilité réduite, mais c'est pas quelque chose que j'aime vraiment qu'on me dise que je suis handicapée, parce que j'aime pas qu'on me prenne à part, et j'aime mieux qu'on me considère comme les autres, donc c'est plus une différence, c'est pas vraiment une maladie, puisque quand on n'entend pas en fait c'est pas dû à une maladie, c'est pas quelque chose qui... c'est pas une maladie. Mais le handicap, en fait, bon, je suis handicapée, enfin ça je le considère, mais c'est plus, j'aime mieux qu'on me dise que j'ai une différence, une particularité, ce mot ça me convient mieux. Mais après, si on me parle de handicap, ça va pas me gêner. Ben voilà. Mais c'est vrai que je me définis juste comme différente.
C'est-à-dire que du coup, tu conçois que tu as un handicap, mais tu ne te présentes pas forcément comme tel. Tu parles plutôt de différence, c'est ça?
En fait, quand je vais me présenter, je vais tout le temps me dire « Bonjour, je m'appelle Emeline ». Et je suis malentendante en fait, parce qu'en plus en ce moment avec la crise sanitaire on a des masques, donc il faut tout de suite prévenir tout de suite mon interlocuteur que je peux pas lire sur ses lèvres avec le masque, donc c'est quelque chose que je vais dire très vite, par exemple en cours, dès que je vais voir un prof, ça va être la première chose que je vais lui dire, je vais lui donner mon micro pour suivre le cours, mais quand c'est des amis je préfère leur dire tout de suite de me présenter comme telle, même si c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais j'estime qu'il faut être clair dès le départ, mais je donne pas des renseignements supplémentaires, je dis juste que je suis malentendante et que j'entends pas bien, donc il faut bien parler en face de moi, voilà, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais je me présente vraiment comme malentendante parce que j'estime que c'est important, parce que je préfère que entendre tout de suite ce qu'on me dit plutôt que je sois complètement perdue et que je le dise après, puisque c'est quelque chose qui est quand même important pour suivre une conversation.
Concrètement, depuis combien de temps est-ce que tu es malentendante ? Est-ce que c'est de naissance ?
Alors en fait, c'est venu très progressivement, puisque je suis appareillée depuis 2017, donc ça va faire 4 ans dans 3 jours. Et ensuite, j'ai été vraiment diagnostiquée avec un besoin d'appareil en 2016, donc un an avant, j'ai mis un an à m'appareiller. Et en fait, j'ai commencé à vraiment... Bah, c'est comme en fait quand on perd la vue, quand on perd l'audition. Donc en fait, on s'en rend pas compte d'un coup, parce que moi, c'était vraiment progressif. Donc je me dis d'abord plus entendu, les voix chuchotées. Et au début, ça me gênait pas. Et puis après, je sentais que j'avais un petit problème et que j'avais du mal à suivre. Donc je recopiais les cours sur mon voisin. Et sauf qu'en fait, je voulais pas l'admettre. Et donc, comme je voulais pas l'admettre, bah, en fait, j'ai dit, bon, je compense avec ma tête, avec mes yeux, par la lecture labiale. C'est là que j'ai appris à lire sur les lèvres. Et donc, en fait, bah, ça fait vraiment 5 ans en fait, que j'ai été vraiment diagnostiquée. Même si dans ma tête, ça faisait un peu plus longtemps. Mais je sais pas vraiment le moment exact où c'est arrivé. Puisqu'en fait, c'est comme quand je suis myope aussi. Je sais pas le moment exact où j'ai eu besoin d'avoir des lunettes. C'est la même chose, en fait.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sais s'il y a une cause ? Est-ce que, parce qu'on pourrait imaginer que ça peut venir d'un accident, d'une maladie, etc. Ce qui apparemment n'est pas ton cas. Est-ce que tu sais
Non, en fait, aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi j'entends pas. Donc, ça aurait pu être dû à une maladie. Il y a aussi parfois des personnes qui ont des problèmes vis-à-vis des vaccins. Ça peut être génétique aussi. Et donc, moi, je n'ai pas fait encore de bilan génétique. Donc là, j'étais pas encore prête à en faire un, puisque même si on me faisait un bilan génétique, j'estimais qu'on n'allait pas pouvoir le soigner, puisqu'on peut pas modifier les gènes actuellement. Donc en fait, ça allait juste responsabiliser mes parents, donc j'étais pas encore sûre. Mais après, c'est quelque chose que je veux faire dans le futur, pour voir si je peux transmettre ce problème à mes enfants. Mais après, au niveau du diagnostic, j'ai fait un audiogramme donc en 2016. Et ensuite, on m'a fait tout de suite des PEA. Donc en fait, les PEA... Oui.
Voilà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un PEA?
Oui. Alors en fait, les PEA, c'est on nous met un casque. Et en fait, c'est pour vérifier si le problème, il vient de l'oreille interne, puisque l'oreille, elle est constituée déjà du pavillon externe. Ensuite, il y a l'oreille moyenne. Donc ça, c'est tout ce qui est l'aspect mécanique de l'oreille. Donc moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et en fait, ça aurait été mieux parce que cette partie de l'oreille, on peut la corriger avec des opérations. Mais moi, en fait, c'est dû à l'oreille interne. Donc c'est soit la cochlée, donc c'est là où il y a les cellules ciliées. Donc voilà, c'est l'endroit où l'information nerveuse elle est transmise au cerveau, ou le nerf auditif. Et donc à ce jour, on sait que ça vient de mon oreille interne, mais en fait, on ne sait pas comment. Et en fait, on ne peut pas y accéder, mis à part un implant cochléaire, mais je pense que tout à l'heure, on reparlera de ça. Mais en fait, il n'y a pas des moyens, vraiment, la science elle n'est pas tellement développée sur ce sujet. Donc on m'a fait des PEA. Donc les PEA, c'est en fait, on met des sons dans l'oreille. Et en fait, on va regarder l'information nerveuse du cerveau. Donc, on fait rien. En fait, on écoute juste des choses. Et ils analysent le comportement du cerveau pour voir si les sons, ils arrivent bien à destination. Et donc, moi, on m'a dit que j'avais une sourdité de perception et de transmission. Donc, ça veut dire que la perception, c'est le son, il arrive mal à mon oreille. Et transmission, j'arrive un peu pas très bien à transmettre le son. Et voilà, j'ai également fait un scanner. Donc, le scanner, il est normal. J'ai pas d'anomalie de l'oreille. Et aussi, j'ai fait un IRM, mais aussi, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, tous les tests que j'ai faits, ils ont conduit à aucun diagnostic, mis à part le fait que ça venait certainement de l'oreille interne. Mais à ce jour, je n'ai pas d'informations. Et donc, pendant longtemps, ça m'a un petit peu gênée de ne pas savoir où c'était, puisque c'est difficile d'expliquer à des gens que je n'entends pas, mais ils ne savent pas pourquoi. Après, il y a quand même beaucoup de surdités qui ne sont pas diagnostiquées. On ne sait pas à quoi c'est dû. En fait, c'est très rare quand on sait d'où viennent vraiment les surdités.
Juste pour revenir à le moment avant, donc tu dis que c'est progressif, oui. Et qu'il y a eu plusieurs signaux. C'est quoi le signal de trop, enfin, ce qui vraiment t'a fait basculer dans un truc de là il faut que je vois quelqu'un, c'est vraiment plus possible.
Alors en fait, en troisième déjà, je sentais que c'était un petit peu compliqué parce que par exemple quand j'ai passé mon brevet pour la dictée, mon professeur s'était mis en face de moi vraiment pour que je puisse essayer de faire la lecture labiale. Puis en fait, j'ai...
Mais donc à ce moment-là, il savait, enfin, tu lui avais dit ?
Alors, en fait, c'était pas officiel, mais c'était juste que j'avais un petit peu des problèmes, mais en fait, je voulais pas, encore une fois, moi, je voulais pas l'admettre, et donc en fait, c'était vraiment, on se met bien en face de moi, comme ça, je peux bien suivre. Par contre, où ça s'est vraiment vu, c'est en anglais, puisqu'en fait, j'ai jamais été très bonne à l'oral en anglais depuis la sixième, et en fait, en troisième, ça s'est vraiment dégradé, puisque quand je faisais des écoutes orales, en fait, je comprenais absolument rien. Et je savais juste que c'était un homme ou une femme qui parlait, mais je comprenais aucun mot. Et un jour, j'ai rendu à ma prof d'anglais...
Un devoir par rapport à une
oui, voilà, c'est orale. Ça, une écoute orale. Et en fait, j'ai juste mis, c'est un homme qui parle de quelque chose qu'il fait. Et donc, quand ma prof, elle a vu ça, ça l'a vraiment alarmée. Et elle a dit, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Donc, j'étais dispensée au bac. Par la suite, j'ai pas passé les oraux de langue. Et en fait, tout le lycée, eh ben, en seconde, j'ai triché sur mes voisins parce qu'en fait, je voulais pas l'admettre, mais je savais très bien que j'entendais rien. Puis après, j'ai arrêté les écoutes orales en première. Et en fait, vraiment, en cours, à partir de la seconde, la première, je recopiais tous les cours, parce que je pouvais pas prendre des notes, du coup, sur ma voisine. Donc ma voisine, elle a été très gentille, puisqu'elle me laissait regarder. Donc du coup, je sais lire toutes les écritures de face, de profil, voilà. Et en fait, c'est vraiment en première. Donc, j'ai passé un premier audiogramme en 2015 qui s'est avéré parfait parce qu'en fait, j'ai les acouphènes depuis 2013. Et donc, en fait, j'entends toujours du bruit. Donc, en fait, si un audioprothésiste me demande « Est-ce que tu entends le bruit ?» Ben, moi, je dis oui puisque j'ai toujours du bruit dans mes oreilles. Et donc, maintenant, je me suis habituée. Mais donc, en fait, en 2015, mon audiogramme était parfait. Même si je savais déjà que j'entendais pas, donc il était faux. Et en 2016, mon audiogramme était vraiment très mauvais. Donc là, ils m'ont dit, il faut que vous appareillez. Et moi, j'ai dit, je ne m'appareillerai pas tant que mes notes ne vont pas chuter. Parce que j'étais une assez bonne élève. Et en fait, à l'époque, je voulais être prof de maths. Et donc, j'avais toujours des bonnes notes en maths. Et puis, en fait, vraiment, en terminale, j'ai commencé à avoir du mal en maths. Parce que ça devenait trop compliqué. Et comme je recopiais que le voisin, je n'entendais pas les informations du professeur. Et en fait, quand j'ai vraiment eu... des notes basses, je me suis dit là vraiment je peux plus continuer parce que j'avais mal à la tête et c'était compliqué, donc je me suis dit il faut vraiment que je m'appareille à ce moment là donc ça a été vraiment l'élément déclencheur. En fait, c'était tant que j'arrive à me débrouiller sans l'appareil et que j'arrive encore à suivre, je vais pouvoir continuer, mais quand voilà, ça me fatiguera trop, et c'est ça en fait l'élément déclencheur.
Et toujours sur cette question des signaux, à quel moment tu... Enfin, parce que tout à l'heure tu disais que là par exemple le prof pour la dictée s'était mis en face de toi pour que tu puisses lire sur les lèvres, que du coup il y avait quelque chose qui était un petit peu officieux. Déjà, à quel moment t'en parles autour de toi, à tes parents, à tes profs, à tes proches, avant même que ce soit quelque chose d'officiel?
Pour la dictée, en fait, ma tante, elle était professeure de français dans mon collège. Et donc, en fait, elle en a parlé à sa collègue juste pour dire « Ah bah, Emeline, des fois, elle a un petit peu de mal à entendre. »
Mais parce que du coup, toi, tu lui avais déjà dit. Enfin, t'en avais parlé à tes parents, enfin, à ta famille
Bah, déjà, ils s'en sont rendus compte tout seuls, en fait. Parce que ça se voyait parfois. C'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que j'ai dit. Parce qu'en fait, j'assumais pas du tout. J'ai mis beaucoup de temps à l'assumer. Et donc, en fait, c'est... Je sais pas à quelle période vraiment j'en ai parlé à mes parents, mais moi en fait dans ma tête, par exemple j'ai eu les lunettes en CM2, et dans ma tête c'était, j'ai des lunettes en CM2, je vais avoir des appareils en 3e. Donc en fait, déjà, quand j'étais en 3e dans ma tête, je m'étais dit peut-être que je vais en avoir, je savais que j'en aurais un jour, mais voilà, mais c'est pas quelque chose que j'assumais. Et donc mes parents, bah, ils se sont rendus compte que j'entendais plus les voix chuchoter, et que j'avais des petits problèmes, qu'il fallait que je me mette en face, mais en fait je compensais énormément avec la lecture labiale, et au début ça suffisait, puisque au début j'étais à peu près à mon premier audiogramme, j'étais à 50 décibels.
Parce que justement, cette question de décibels, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ce qui est considéré comme la norme, entre guillemets, enfin avec des gros guillemets
Alors en fait, normalement, nous on entend une oreille normale, elle entend à partir de 20 décibels vraiment, donc c'est par exemple le bruissement d'une feuille, voilà. Et en fait, à 50 décibels, c'est une conversation qui est très faible, 50-60 décibels. Et donc moi, actuellement, j'entends pas à 86 et 90. Donc en fait, ça veut dire que toutes les conversations, je les entends pas. En fait, sans appareil, j'entends pas. Par exemple, je suis partie en week-end d'intégration, et le matin, j'entendais pas la fanfare qui jouait. Voilà, donc ça peut être pratique, parce qu'on n'est pas dérangé par les bruits. Mais dans la vie courante, c'est quand même compliqué. Donc maintenant, j'entends que, par exemple, les feux d'artifice, les vibrations par le sol. Mais c'est plus des vibrations que des sons. Voilà. Et en fait, donc à l'époque, j'entendais pas vraiment les conversations qui étaient faibles, mais j'étais capable de suivre une conversation. Donc après, je pouvais beaucoup compenser avec la lecture labiale, avec aussi le fait que, bah, en fait, comme j'étais assez intelligente, par exemple, quand on me disait une phrase que j'avais pas compris un mot, bah, automatiquement, je replaçais le mot qui manquait. Voilà. Mais ouais, je sais pas trop quand est-ce que j'en ai vraiment parlé à mes parents. En fait, quand j'ai eu les acouphènes, donc en 2013, je ne leur ai pas dit tout de suite. Parce qu'en fait, j'estimais que ce n'était pas important. Parce qu'en fait, j'en avais occasionnellement. Donc les acouphènes, pour ceux qui ne savent pas, c'est, en fait, c'est un bruit continu dans les oreilles qui peut varier. Donc des fois, ça ressemble à une machine à laver, un avion qui décolle. C'est pas très agréable. Et c'est surtout le soir qu'on s'en rend compte. Parce que la journée, il y a du bruit ambiant. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Mais le soir, vraiment, voilà. Et moi, j'en avais occasionnellement. Et en fait, quand je mettais mon doigt dans l'oreille... Des fois, ça passait. Bon, je sais pas si c'est une super technique. Et en fait, un soir, ils sont pas arrêtés. Et donc, bah, depuis, je les ai, depuis ce jour-là. Et en fait, c'est qu'en 2015, donc 2 ans après, que je leur ai dit que j'avais les acouphènes. Donc, j'ai pas mal attendu. Mais moi, je voyais pas, en fait, un lien entre... voilà. Mais quand même, quand je me suis fait percer les oreilles, donc je devais être en 3e ou en 4e, j'avais peur, parce que je me disais, ça se trouve, ça va encore m'aggraver les oreilles. Donc, en fait, je pense que mes parents... j'en avais déjà dit, puisqu'en fait ils savaient déjà que j'avais peur pour mes oreilles. Et pareil, j'aimais pas qu'on me touche les oreilles, parce que j'étais assez sensible de cet endroit. J'avais peur qu'on me fasse n'importe quoi avec mes oreilles. Et donc je pense qu'en fait, oui, je pense qu'ils doivent le savoir depuis la 4e, la 5e. Puis après, maintenant, quand j'y repense, en fait, je vois des éléments encore plus loin que j'avais pas forcément pensé. Mais ça a pas été une découverte énorme quand j'ai fait mes premiers audiogrammes, en fait. Et c'est pareil, c'est mes parents. Surtout ma maman qui m'avait pris rendez-vous pour les premiers audiogrammes. C'est pas moi-même qui est allée, elle m'avait dit il faut faire un audiogramme pour voir que t'entends pas, en fait.
Donc là, ce que tu racontes, c'est par rapport à ta famille. Tes amis, comment ça se passe? Est-ce que tu leur en parles, eux, pour le coup, ou pas du tout?
Alors, au collège, pas du tout. En fait, au collège, je l'ai caché. Voilà. Après, en seconde, non, je pense pas. En fait... Le problème que j'ai eu, c'est que moi, je suis dans la même école depuis la maternelle jusqu'au lycée. Donc en fait, c'est, même s'il y a des personnes qui sont parties, des personnes qui sont arrivées, c'est globalement les mêmes personnes. Et en fait, finalement, en première, quand je suis à Paris, il y a juste mes amis proches donc, qui le savent. Et en fait, le problème, c'est que ça a été perçu bizarrement, puisqu'ils pensaient qu'en fait, c'était un petit peu banal et ils l'ont pas pris assez au sérieux. En fait, ils l'ont pris comme si c'était une petite perte. Et en fait, voilà. Et moi, je l'ai pas vraiment dit, oui, je suis carrément sourde. Enfin, voilà. Et il y a juste ma meilleure amie, vraiment, qui savait. Mais même par exemple, quand je passe un scanner, en fait, elle s'était fait opérer de la tête. Donc, en fait, j'avais des amis qui avaient des problèmes de santé déjà plus importants. Enfin, pas enfin, on peut pas comparer, mais c'était plus voyant. Il y en avait une, elle avait un problème de jambe de naissance. Elle boitait parce que sa jambe était trop longue. Du coup, ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et donc, en fait, comme elle s'était fait opérer 6 fois, bah, moi, quand je lui ai parlé de mes problèmes d'oreille, en fait, elle a relativisé. Et puis, donc, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas pris au sérieux. Mais c'est que ça les a pas vraiment bouleversés. Mais bon, ils ont quand même été là. Mais c'est vrai que quand j'ai été appareillée, mes amis, bah, je leur ai dit je suis appareillée. Ils m'ont dit bah, ok. Mais par exemple, ils n'ont pas posé énormément de questions. Par exemple, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est mieux? Et ils sont jamais posé comment il faudrait qu'ils se mettent pour que ça soit plus pratique pour moi. Enfin voilà. Parce qu'en fait, je voulais un petit peu le. J'assumais pas. Et je l'ai assumé qu'en prépa. Et voilà, donc au lycée, bah, mes amis le savaient, mais dans ma classe, par exemple, bah, ils ne le savaient pas. Et enfin, après, je sais pas, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais ça a été compliqué d'expliquer aux gens en fait que tout à coup, bah, j'entendais plus et je savais même pas pourquoi. Donc ça a été compliqué. Et finalement, en prépa, je suis arrivée dans un nouvel établissement avec des nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas. Et en fait, ça a été vraiment un changement de vie puisque je pouvais leur expliquer. Ils pensaient que c'était de naissance. Et ça a été vraiment plus facile pour moi, parce qu'en fait c'est compliqué quand on voit quelqu'un qui s'appareille et on n'a rien vu venir. Et moi j'étais quelqu'un d'assez timide, donc je voyais pas pour en parler. Donc je dirais qu'en fait mes amis, bah, ils ont quand même été là, mais ça n'a pas été merveilleux. Enfin en fait la vie elle a continué, c'est juste j'avais de l'appareil en plus, mais ça les a pas vraiment interpellés, voilà.
Donc tu dirais que le fait qu'ils te posent pas forcément de questions, qu'ils le prennent pas forcément au sérieux, en tout cas qu'ils ne mesurent pas l'ampleur de l'impact que ça allait avoir sur toi, c'est lié notamment au fait que ce soit invisible.
Oui. Mais en fait, oui, c'est pas qu'ils le prennent pas au sérieux, mais en fait, ils pensent pas le degré. Et en fait, même maintenant, je suis obligée de le préciser, parce que ça se voit pas, en fait. Voilà. Et du coup, souvent, les gens, ils pensent pas que j'entends pas si mal, en fait. Et quand je leur dis, par exemple, que j'entends pas la fanfare la nuit, et ben, en fait, ils sont complètement interrogés, puisqu'ils pensent qu'en fait, c'est juste comme leurs grands-parents qui ont un peu presbyacousie, qui se mettent des appareils parce qu'ils ont un peu de mal à entendre, ou alors, s'ils les mettent pas, c'est pas bien grave. Moi, c'est quelque chose de vital, les appareils. En fait, si je les mets pas, voilà, c'est compliqué. Et donc, du coup, oui, c'est vraiment, c'est invisible. Et par exemple, je me souviens, j'avais un ami en terminale. Et un jour, en fait, on a eu un cours et on avait des tables individuelles. Donc moi, j'avais pas de voisin. Et en fait, comme j'étais assez timide, j'ai pas osé dire on va rapprocher les tables. Donc du coup, pendant toute l'heure, je fais semblant de prendre des notes. Donc j'écrivais des trucs, mais je savais pas trop. Et en fait, l'heure d'après, on avait une heure de permanence. Donc j'ai rattrapé ce cours. Et en fait, là, cet ami-là, mais c'est pas un ami proche, est venu me voir et il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit, je recopie le cours, voilà. Et il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas eu le temps? Et moi, je lui ai dit, j'entends pas. Et en fait, ça l'a vraiment interpellé, puisqu'en fait, c'est comme si je lui avais dit quelque chose d'absurde. C'est maintenant, je regrette un peu, puisque j'aurais pu plus le présenter, puisque finalement, les gens, ils le prennent pas mal. Et moi, j'avais peur du regard des autres. Et en fait, bah, ils vont juste peut-être poser 2, 3 questions, mais ça va pas vraiment les choquer, voilà. Et donc, maintenant, si c'était à refaire. Je présenterai plus et en fait j'en parlerai plus parce que c'est vrai que j'aime bien les personnes qui me posent des questions sur mes problèmes parce que j'aime mieux mettre à jour en fait leur dire vraiment la vérité plutôt qu'ils s'imaginent des choses qui sont fausses et donc maintenant bah, j'aurais mieux finalement le présenter à la classe ou enfin voilà.
Et du coup, tu parlais de ta peur du regard des autres. Tu disais que ça s'est pas trop mal passé, mais est-ce qu'il y a quand même eu des moments où tu as eu peur, voire tu as carrément vécu des moments d'isolement, voire du harcèlement par rapport à ces questions-là?
Alors, j'ai subi aucun harcèlement par rapport à ça, donc ça, j'en suis vraiment reconnaissante parce que ça aurait été difficile. Mais c'est vrai que, bon, quand j'ai eu mes appareils, je l'ai caché pendant longtemps, parce qu'en fait, j'ai des grands cheveux, donc en fait, ça m'a pas mal aidée, parce que par exemple, avant, je me faisais toujours des chignons, et donc, bah, j'ai laissé mes cheveux, voilà, parce qu'en fait, je voulais pas, déjà, moi, j'ai encore du mal aujourd'hui à voir, en fait, des personnes qui ont des appareils. Parce qu'en fait, quand je vois d'autres personnes qui ont les appareils, je trouve ça un peu moche. Et en fait, c'est triste parce que je me dis, je ressemble à ça. Et en fait, je me dis, tout le monde le voit. Donc maintenant, je les assume, mais j'aime pas non plus les voir. Par exemple, en photo, j'aime pas trop voir mes appareils. Voilà. Même si, bon, maintenant, j'assume complètement. Voilà. Donc c'est un petit peu contradictoire. Mais c'est vrai que je les ai assez cachés. Même quand j'avais plus de piles, parce que les piles, on les change tous les 5 à 6 jours. Eh bien, en fait, j'allais aux toilettes pour changer ma pile. Donc, en fait, je ne l'enlevais pas devant les autres en première et en terminale. Et donc, maintenant, j'assume complètement le changement de pile. Parce qu'en fait, quand les piles, elles sonnent, ça fait du bruit et tout le monde entend. Donc, au début, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que j'étais longtemps cachée. Et parce qu'en fait, aussi, c'était ma maman. En fait, elle a mis beaucoup plus de temps à les assumer que moi. Voilà. Et donc, en fait, moi, finalement, j'ai mis du temps, mais moins. Et en fait, j'avais un peu de mal parce que même des fois, elle me faisait des remarques pour dire « Oui, tu les as pas mis devant tes cheveux. » Enfin, elle le disait pas crûment comme ça, mais elle le laissait entendre, en fait, mais j'avais les cheveux un peu tirés. Parce qu'en fait, ça la gênait, mais pas parce que... C'est juste qu'elle l'assumait pas. C'est pas parce que, en fait, elle m'assumait pas moi, mais elle avait du mal à me voir avec les appareils. Donc, ça a été assez compliqué. Mais maintenant, en fait, j'ai plus de problème à m'attacher les cheveux. Mais c'est vrai que j'ai eu une grande période où je ne voulais pas les montrer. Et donc, voilà. Mais maintenant, en fait, je suis obligée de les montrer. Et je suis obligée de me présenter comme telle. Parce que sinon, en fait, pendant longtemps, y a des choses que j'ai ratées. Parce que j'avais peur de le dire. Donc maintenant, je pense, je dis carrément que j'entends pas. Comme ça, au moins, je profite de la conversation dès le départ. Voilà, mais c'est vrai que j'ai un peu eu du mal à les voir parce que c'est pas très esthétique. Même quand je les ai choisis, j'ai choisi les plus petits qu'il existait, voilà, la couleur la plus neutre.
Et je voulais revenir un peu sur la question du diagnostic parce qu'on est passé assez vite. Même si toi, du coup, tu te doutes parce que t'as plusieurs signaux et que c'est très progressif, le moment où on pose le mot, je sais pas comment on l'a posé, si on a posé le mot de surdité, si on t'a dit que t'étais malentendante. Mais quand tu obtiens ce diagnostic-là, quel qu'il soit, c'est quoi ta réaction, ton ressenti ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est du soulagement ? De la peur ?
Oui, alors vraiment, le diagnostic, il est tombé donc, en 2016, en mars 2016. Et en fait, vraiment, j'en veux un peu au médecin d'avoir été si... en fait, elle me l'a sorti comme ça. Alors déjà, en fait, c'était à l'hôpital, donc à l'hôpital à Grange-Blanche, Lyon-Sud. Et en fait, moi, je voulais pas y aller déjà, parce que je savais que ça allait pas être une très bonne nouvelle. Donc, je suis vraiment allée en traînant des pieds, et j'y mettais vraiment pas du mien, parce qu'en fait, quand l'audiogramme, c'est un interne qui m'a fait mon audiogramme, sauf que moi, j'étais pas du tout branchée, et voilà. Donc, en fait, il y est pas arrivé à me le faire, parce que j'étais trop stressée. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Et vraiment, quand j'ai vu donc l'ORL, en fait, elle m'a carrément posé directement que j'avais une sourdité bilatérale. Donc en fait, il y a différents niveaux. Donc moi, maintenant, je suis une sourdité profonde, sévère. Mais au départ, c'était juste une sourdité moyenne, donc bilatérale pour les deux côtés. Et donc juste moyenne, parce que c'était 50-60 décibels. Et en fait, ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'en fait, elle m'a juste dit « Oui, il faut absolument... » J'avais pris rendez-vous pour les acouphènes au début. Donc ça a pris du temps et elle m'avait dit « Non, mais là, c'est une urgence. Donc je vous prends rendez-vous pour le lendemain pour les PEA. » Donc ça a été vraiment, elle a été vraiment horrifiée, elle m'a dit « Pourquoi vous n'êtes pas venue avant ?» Et là, en fait, elle m'a sorti une boîte avec des appareils auditifs et elle me l'a posée devant. Et en fait, ça a été compliqué parce que même si je m'attendais, en fait, je ne m'attendais pas que ça soit aussi direct. Et elle m'a dit « Oui, tu sais, tu peux choisir la couleur, tu peux choisir la forme. » Et en fait, ça a été très compliqué parce qu'il n'y avait aucune psychologie. Donc moi, je suis quelqu'un qui intériorise assez mes émotions. Donc sur le coup, en fait, j'ai gardé bonne figure. Mais c'est vrai que j'étais avec mes parents et en fait ma maman, dès qu'elle a posé le diagnostic, en fait elle s'est mise à pleurer parce que c'était difficile, en fait ça a été tout d'un coup, on n'était pas vraiment préparé psychologiquement et en fait même elle nous a fait même culpabiliser d'être pas venue avant. Donc ça a été très compliqué, mais par contre moi dès que je suis sortie, donc j'ai fait bonne figure, mais dès que je suis sortie de l'hôpital en fait je me suis mise à pleurer puisqu'en fait je m'attendais à ce que ça soit ce diagnostic. Mais pas aussi vite, aussi brutal comme ça, en me disant il faut prendre un rendez-vous là, la semaine prochaine vous avez un scanner, ensuite il faut aller acheter des prothèses d'urgence. C'était un peu soudain. Et finalement, quand je me suis fait à Paris un an plus tard, j'étais beaucoup plus calme. Parce qu'en fait, j'avais toute une préparation, j'avais eu tout un an. Et quand je suis sortie, je me suis dit de toute façon, je ne m'appareillerai pas. Parce qu'actuellement, j'estime que j'en ai pas besoin. J'arrivais à compenser. Et bon, c'est quand du coup je me suis mis à baisser en maths et tout. Au bout d'un an, je me suis dit, bah là, voilà. Et en fait, quand je me suis appareillée, finalement, c'était pas un peu un soulagement, parce que ça n'a pas été super, mais c'était plus que bah, c'était l'issue normale qu'il allait avoir. Donc en fait, bah, je ne me suis pas opposée. Voilà.
Je me demandais, on parlera de l'appareillage juste après, mais est-ce que du coup, tu as fait la démarche d'avoir potentiellement un suivi psychologique, parce que tu disais que ça avait quand même été assez dur, t'as pas utilisé ce terme, mais potentiellement violent en termes d'annonce, etc. Est-ce qu'après tu te décides à avoir un suivi psychologique pour pouvoir parler de ces questions-là? Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est à la base valide, qui est normal, encore une fois avec des gros guillemets, peut devenir sourd. C'est quelque chose qui peut faire peur à des gens. J'imagine que ça a dû être compliqué à gérer toi-même, même si c'était progressif. Du coup, suite à ça, est-ce que tu t'es dit je vais faire un suivi psychologique?
Alors non, pas du tout. Alors c'est vrai que avec le recul, moi comme j'aime beaucoup parler, je pense que j'aurais dû en parler à quelqu'un d'extérieur à ma famille, puisque bon, c'est pas très objectif, et surtout que mes parents ils l'ont pas très bien pris. C'était compliqué pour eux parce qu'en fait ils voulaient pas l'admettre déjà, parce qu'ils pouvaient pas admettre que j'ai ce type de problème. Puis bon, ils s'en sont un petit peu voulu. Ils se sont dit, ça se trouve, ça vient de nous. Quand elle était petite, on a fait des choses qu'il fallait pas. Parce que j'ai eu des otites, un petit peu. Est-ce que c'est, ils ont mal soigné? Donc après, ils culpabilisaient un petit peu. Mais c'est vrai qu'heureusement, j'ai de la chance parce que j'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi. Et en fait, elle m'a vraiment aidée. Puisque elle, je sais pas vraiment comment elle a réagi à cette annonce. Mais en fait, elle a toujours été là. Et en fait, elle m'en a jamais vraiment parlé. Et c'est vrai que quand je suis rentrée de mon diagnostic, elle s'était vraiment occupée de moi. Et en fait, je sais pas ce que j'aurais fait si je l'avais pas eu, en fait, puisqu'elle m'avait vraiment changé les idées. Et en fait, je suis allée ensuite chez le psychologue après. Mais c'était vraiment... j'étais déjà à Paris, en fait. Je suis allée 3-4 ans après, en fait. Enfin, voilà. Mais c'était plus parce que j'avais envie de parler. Après, j'ai quand même pas mal parlé à mes amis. Mais c'est vrai que quand j'y repense, je pense que j'aurais dû écrire... Ou alors aller voir un professionnel, puisque j'étais trop dans le cercle de la famille. Et en fait, ce que je pense, c'est que j'ai du mal à l'assimiler. Puisqu'en fait, autour de moi, on voulait pas l'assimiler. Et enfin voilà. Et puis après, ça a été compliqué aussi. Parce que le jour où j'ai eu mon diagnostic, en fait, mon grand-père qui avait un cancer du poumon, il a appris qu'il allait commencer la chimio le même jour, en fait. Et donc, ça a été compliqué. Puisque c'était le même jour, et donc voilà. Et en fait, du coup, bah, finalement, j'ai un peu laissé de côté, parce qu'il y avait d'autres problèmes. Et ouais, je sais pas, mais je voulais pas, en fait, je voulais pas en parler au début. Et maintenant, je suis très ouverte à la discussion, mais au départ, c'est vrai que je voulais pas en parler parce que je voulais pas l'admettre. Donc c'est vraiment... Donc en fait, en parler à quelqu'un, j'ai même pas pensé. Puisque je voulais continuer une vie normale, et je voulais en fait, même si on m'avait posé le diagnostic et je savais, bah je voulais continuer de vivre comme si on m'avait pas dit ça. Même si j'avais sincèrement que ça n'allait pas, il y avait un problème, voilà.
Du coup, je voulais aussi revenir sur la question de l'appareillage, oui. Parce qu'il existe différents types d'appareils. Moi, de nom, je connaissais l'implant cochléaire, mais tu m'as dit avant qu'on commence l'enregistrement que c'est pas ce que tu as. Est-ce que peut-être tu pourrais expliquer, est-ce que déjà on t'a laissé le choix et quel choix t'as fait et concrètement comment fonctionne ton appareil aujourd'hui?
Alors en fait, il y a 2 types d'appareillage. Donc, sans parler des implants cochléaires, donc les appareils, en fait, c'est juste, on met un embout dans l'oreille, et après, on a une espèce de petit appareil, ça s'appelle un contour, derrière l'oreille. Donc, moi, au début, j'avais des appareils qui sont intra-auriculaires. Donc, en fait, ça veut dire que à l'extérieur de mon oreille, donc derrière mon oreille, j'ai juste un petit boîtier qui contient une pile, et à l'intérieur de l'oreille, donc comme c'est intra-auriculaire, j'avais un embout et il y a le système électrique à l'intérieur. Donc l'avantage de ces appareils, c'est qu'ils sont pas très puissants, mais ils se voient pas beaucoup parce qu'il y a pas de gros boîtier derrière puisque l'électrique est à l'intérieur de l'oreille. Donc moi j'ai choisi ça parce qu'en fait je voulais les appareils le plus discret possible pour qu'on les voit le moins, et même j'avais les appareils qui étaient neutres, voilà. Je les ai gardés un an. Le problème, c'est qu'après, ma sourdité, elle s'est trop dégradée. Et donc, j'ai dû changer d'appareil. Donc maintenant, j'ai des contours d'oreilles. Donc en fait, ça veut dire qu'à l'intérieur, j'ai juste un embout avec rien dedans. C'est juste silicone. Et j'ai donc un tuyau. Et derrière mon oreille, en fait, j'ai une grosse partie avec la pile et tout l'appareillage électrique. Donc l'avantage, c'est que de ce type d'appareil, c'est qu'on peut plus monter en puissance, mais il est plus gros et plus visible. Voilà. Donc vraiment, moi, le premier critère, c'était le plus discret possible. Et aussi, j'avais un deuxième critère, c'est que je voulais qu'en fait mon appareil soit relié, donc pas pour mon premier appareil, mais pour mon deuxième, soit relié à mon téléphone. Alors maintenant, tous les appareils, ils sont tous reliés en Bluetooth au téléphone, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et donc en fait, parce que je voulais quand même pouvoir téléphoner, pouvoir écouter de la musique, puisque quand on est à Paris, on peut pas mettre de casque. En fait, le casque, c'est mes appareils qui marchent en Bluetooth sur mon téléphone. Et vraiment, mes appareils, je les ai choisis avec une marque pour que ça marche avec mon micro, puisqu'en fait en cours très vite j'ai eu un micro, donc c'est pas un micro HF, c'est un petit micro, et en fait que une personne clipse sur son pull ou sur son écharpe, et en fait ça me permet directement de uniquement avoir le son de la personne et de baisser le niveau extérieur. C'est pratique par exemple en amphi quand il y a de l'aération, voilà. Et ça me permet en fait de prendre des notes sans regarder la personne. Et donc ça, je le porte depuis la terminale. Et donc c'est vraiment le choix du micro et le choix d'être en Bluetooth avec le téléphone qui a influencé le choix de mes appareils.
Est-ce que tu te souviens de la sensation que tu as eue quand tu as pu de nouveau entendre et du coup potentiellement entendre plein de bruits ou plein de sons que tu n'avais pas entendu depuis quand même un certain temps?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'appareille, le son qu'on entend, c'est pas du tout un son naturel. C'est assez robotique, puisque c'est un son quand même qui est pas informatique, mais c'est pas naturel. Donc moi, quand je me suis fait appareiller, je pouvais vivre sans appareil, en fait. Bon, c'est juste que c'était très compliqué, puisque je devais lire sur les lèvres, ça me fatiguait, j'avais mal à la tête. Donc en fait, ça n'a pas été flagrant quand j'ai mis les appareils, puisque ça m'a juste un petit peu monté. Mais comme les sons étaient complètement différents... En fait, je me souviens quand il m'a mis pour la première fois mes appareils, j'ai entendu la sonnette de la porte d'entrée de l'audioprothésiste. Et ça, en fait, c'était un peu bizarre parce que j'étais dans un cabinet au fond et j'ai entendu la sonnette. Voilà. Et donc, en fait, ce que je dirais, c'est que au départ, puis quand je suis sortie de l'audioprothésiste, j'ai dit oh là là, qu'est-ce que le tram fait du bruit. Voilà. Et en fait, la première chose que j'ai remarqué, c'est vraiment les bruits extérieurs qui étaient très importants puisque le cerveau. Quand on n'est pas appareillé, il fait la distinction entre les sons qui sont intelligents à entendre, donc par exemple les voix des personnes, et les voix et les bruits extérieurs, par exemple les bruits de la route, les klaxons, voilà. Et en fait, quand on est appareillé, on n'a pas cette sélection naturelle, on va dire. Donc en fait, on entend tout au même niveau. Donc par exemple, ça amplifie tout, mais ça amplifie autant, par exemple, ta voix que le camion qui passe dans la rue. Donc au début, c'est pas forcément super, parce qu'il y a un temps d'adaptation, puis il y avait des sons que je ne savais pas ce que c'était, par exemple un oiseau. Moi, j'entendais des bruits, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas du tout. Et donc du coup, je dirais que oui, ça a été quand même intéressant, mais au début, je sais que je les mettais pas tout le temps, parce que ça me montait à la tête. Mais très vite, je les ai mis toute la journée, parce que ça me fatiguait moins. Mais j'ai eu quand même un temps d'adaptation. En plus, il fallait que j'aille toutes les semaines chez l'audioprothésiste. Parce qu'en fait, quand on met le son, on ne met pas au maximum d'un coup. On met d'abord assez faible. Et toutes les semaines, on monte un peu pour habituer le cerveau. Parce que sinon, ça fait un traumatisme sonore. Voilà. Mais je dirais quand même, j'étais assez contente. Mais j'en veux quand même un peu personnel médical. Puisqu'en fait, ils font croire que quand on est appareillé, en fait, tout va être parfait. Qu'on va retrouver l'audition d'avant. Et en fait, c'est pas le cas, parce que c'est une nouvelle audition qu'on a. Donc maintenant, moi, je suis parfaitement habituée, et bon, je me souviens plus de comment j'entendais avant. Mais c'est vrai que c'est compliqué à entendre, parce qu'il faut apprendre à faire le tri du cerveau. Et c'est vrai qu'au début, il y a... Enfin, là, j'entends plus rien sans appareil. Mais avant, quand j'entendais encore, quand je mettais mes appareils, je disais « Ouh là là, qu'est-ce que c'est fort !» Parce que, bon, le matin, quand on les met, ben, on monte de, je sais pas, 40 décibels, voilà. Mais par contre, pour m'habituer au son, j'ai dû aller chez l'orthophoniste. Donc pendant tout mon lycée, puis après j'ai arrêté en prépa parce que j'avais plus le temps, et donc j'ai appris la lecture labiale, j'ai appris aussi à m'habituer Du coup, j'ai perfectionné la lecture labiale parce que je la connaissais déjà un petit peu. Et j'ai appris aussi à m'habituer au bruit, à savoir quel bruit correspondait à quoi. Parce qu'en fait, il faut réapprendre complètement les sons. Et pareil, quand on change d'appareil, il y a encore un temps de réadaptation, mais ça a été beaucoup plus facile. Après, ce que je pense, c'est que comme j'étais assez jeune, c'est plus facile parce que je connais des personnes âgées qui ont du mal à s'habituer à leurs appareils, puisque voilà, elles sont plus vieilles et elles ont moins une capacité d'adaptation. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais pas ultra satisfaite. Parce qu'en fait, on m'avait tellement promis que ça allait être parfait. Mais ce que je pense, c'est que si on m'avait pas dit que ça serait parfait, j'aurais été plus contente. Mais voilà, c'est vrai que ça a été quand même... Et j'ai eu un micro, le petit micro, assez tôt. Mais je ne l'acceptais pas en cours. En fait, je voulais pas le montrer. Et en fait, maintenant, je le regrette. Puisque à partir du moment où je l'ai eu, ça a été vraiment plus facile pour moi. J'avais plus mal à la tête. Vraiment, ça a été un changement. Et donc, je l'avais depuis longtemps, mais je n'osais pas le prendre. Mais oui, je dirais que les appareils, c'est quand même quelque chose... ça m'a permis... Bon, maintenant, je ne m'en passe pas, quoi. Mais au départ, j'étais pas très convaincue.
Et justement, tout à l'heure, tu disais « j'aurais pu vivre sans mes appareils oui. ». Puisque, en fait, effectivement, il y aurait pu avoir cette question-là de... Enfin, faire ce choix de ne plus entendre. Et du coup, potentiellement, d'entrer dans la communauté sourde qui parle la langue des signes, etc. Est-ce que c'est une question qui s'est posée pour toi ?
Alors, pas vraiment, parce que, bon, déjà, moi, je parle pas la langue des signes, donc j'avais prévu de l'apprendre, mais bon, après, le problème, c'est que, bon, de la prépa, l'ENS, et puis le problème, c'est qu'aussi, il faut l'apprendre, même si on l'apprend, personne ne la parle chez moi, mes amis, il faudrait qu'ils l'apprennent avec moi, donc en fait, c'est un peu une situation d'urgence, dans le cas où, si vraiment un jour, j'entends plus rien, là, peut-être que je m'y penserai. Mais c'est vrai que en fait, je voulais pas avoir une vie pas normale. Et donc, en fait, je me suis jamais posé la question vraiment quand ça commençait à partir mal, que j'arrivais plus à suivre. Je me suis vraiment dit, il faut faire quelque chose. Et je pensais pas en fait jamais entendre. Enfin, je me suis jamais posé la question. Et j'ai jamais voulu vraiment être considérée comme sourde au départ. Donc maintenant, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que mes audioprothésistes me disaient « si tu veux, on te met en contact avec des gens comme toi ». Mais moi, en fait, je voulais pas être en contact avec des gens comme moi parce que je voulais rester comme les autres. Donc en fait, je voulais pas qu'on me mette dans une case et rentrer vraiment... c'est vrai que je pense que non, en fait, j'aurais pas pu ne plus rien entendre. J'aurais été complètement coupée du monde. Donc le fait d'être appareillée, ça m'a quand même aidée. Et je pense que maintenant, de toute façon, je savais que je m'appareillerais, en fait. Donc, ça ne s'est vraiment pas posé. Je m'avais vraiment dit, je m'appareillerais quand je commencerais vraiment à avoir des petits problèmes. Donc, je n'ai jamais pensé à ce que je m'appareillerais jamais. Dans ma tête, c'est sûr que je m'appareillerais, en fait.
Et pour revenir un peu sur la question du scolaire, oui. Tu as beaucoup parlé des aménagements qui ont été mis en place, donc la question du micro, les appareils en tant que tel, etc. Le fait d'avoir des profs qui potentiellement se mettent devant toi et font attention à bien articuler pour que tu puisses lire sur les lèvres. Est-ce qu'au niveau des examens, tu as eu des mises en place ? Donc par exemple, je pense au bac, est-ce que tu as eu un tiers-temps ? Est-ce que tu as eu quelqu'un pour t'aider ? Il y a la question aussi des langues, tu en parlais très rapidement tout à l'heure. Voilà, tout ça. Enfin, quelles sont les choses qui ont été mises en place au niveau des examens ? Parce que tu as beaucoup déjà parlé de ce qu'il y a au quotidien pour les cours.
Alors, du coup, en troisième, j'ai déjà dit la dictée, mais ça, c'était vraiment quelque chose de pas officiel. Après, quand j'ai passé en première, donc en fait, en première, j'avais les aménagements. Quand j'ai passé le TPE, j'avais une fiche donc, officielle en disant que les personnes devaient... m'écrire les questions à l'écrit, parler bien en face de moi. J'avais pas le micro encore. Mais le problème, c'est que je suis passée dans mon lycée avec des profs qui me connaissaient déjà du collège. Donc, ils n'étaient pas trop courant de mes problèmes. Et en fait, ils se sont dit, si on parle en face de moi, très bien. C'est pas la peine de les écrire. Donc, en fait, ils ont un peu sous-estimé. Bon, ça s'est bien passé. Mais c'était pas très sérieux, quoi. Voilà. Mais j'ai pas eu de problème vis-à-vis de ça, mais c'est juste que c'est compliqué parce qu'ils ont pas vraiment pris à la lettre les aménagements. Après, pour le français, j'ai pas eu de tiers-temps en première. Voilà. J'étais avec les tiers-temps, en fait, je sais pas pourquoi. J'étais avec les tiers-temps, j'étais dans la salle des tiers-temps, mais j'avais pas de tiers-temps. Et c'est vrai qu'en début d'épreuve, il y avait un monsieur qui était là juste pour vérifier que j'avais bien écrit mon prénom comme il faut, ce genre de choses, voilà. Mais par contre, c'est en terminale que j'ai vraiment eu des aménagements. Parce que quand j'ai passé les TP, j'avais une personne qui était avec moi. Mais en fait, j'en avais pas besoin. C'était juste le protocole, un petit peu. Et voilà, elle me disait, est-ce que t'as bien compris les questions? Mais et moi, en fait, j'ai pas vraiment apprécié. Et pareil pour le bac, j'ai eu un tiers-temps, par contre. Et j'ai eu aussi une personne qui était avec moi en début d'épreuve et qui lisait le sujet avec moi dans une salle pour vérifier que j'avais bien compris. Mais avec le recul, en fait, ça m'a servi à rien puisque il y avait rien à savoir, comme voilà. Et après, en prépa, pour les concours, j'ai eu aussi les aménagements, donc j'avais aussi un tiers-temps. Voilà. Mais j'avais plus de personnes avec moi en début d'épreuve puisque ça servait à rien. Et par contre, à l'ENS, maintenant, j'ai un sixième de temps. J'ai plus de tiers-temps parce qu'en fait, on m'a dit que c'était compliqué pour l'agrégation d'avoir un tiers-temps. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir des problèmes de lecture. Voilà. Et moi, en fait, j'ai pas ce type de problème-là. En fait, j'ai un tiers-temps uniquement parce qu'on considère que quand on a les aménagements, on peut avoir un tiers-temps, mais j'ai aucun problème de lecture, d'écriture, de compréhension des consignes. Donc en fait, des fois, bon, le tiers-temps, je le prends parce que c'est quelque chose qui peut toujours servir. Mais j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais pas le refuser parce que bon, bah, ça m'arrange quand même un petit peu. Mais des fois, vis-à-vis des gens, quand on me demande pourquoi t'as un tiers-temps, bah, c'est un petit peu compliqué à expliquer puisque j'en ai pas vraiment besoin. Et donc, j'ai un sixième de temps. Et sinon, dans les aménagements, c'est toujours le micro. Les profs doivent porter le micro, mais après, ils sont extrêmement ouverts. Par exemple, à l'ONS, j'arrive, je dis bonjour, je m'appelle Emeline, je suis malentendante. Et pour mieux entendre, j'ai un petit micro que vous mettez sur votre veste. Et le prof dit ok, et ça s'arrête là, en fait. Voilà. Donc, avant, j'avais du mal à aller voir les autres. Mais là, maintenant, il n'y a plus de problème d'aménagement. Sinon, dans les aménagements, c'est tout. Donc, en fait, il n'y a pas eu tellement de choses, mis à part le micro. Et bon, le tiers-temps, voilà.
Et donc là, à l'instant, tu parlais de l'agrégation, ce qui pose du coup la question de l'orientation et de comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'il y a des métiers auxquels potentiellement tu pouvais penser, desquels tu rêvais et que tu n'as pas pu faire à cause de ça? Ou est-ce qu'en fait, ça n'a pas eu de changement particulier?
Alors, c'est un peu compliqué l'orientation, parce que moi, depuis que je suis toute petite, je vais être prof de maths. Donc même si maintenant je suis à l'ENS en physique, mais c'est pas très logique. Et en fait, c'est vrai que ça m'a jamais freinée dans mon orientation. Mais bon, déjà quand je suis partie en prépa, je me demandais si j'allais pouvoir suivre. Puis finalement, ça a été plus facile la prépa à suivre que le lycée, parce que j'avais les meilleures conditions. Mais par contre, bon, maintenant, je me pose toujours la question de l'enseignement. Et je sais que je veux toujours enseigner maintenant, donc maintenant en physique. Parce que bon, l'année prochaine, je vais passer l'agrégation. Et mais par contre, ce qui me gêne, c'est que des fois, j'angoisse un peu avec le fait de me dire comment je vais gérer une classe. Parce qu'en fait, je fais des cours avec enseigner. Et là, j'ai un seul élève, donc je donne le micro à mon élève. Donc là, ça se passe très bien. Mais je me dis, qu'est-ce qui va se passer si en fait, j'ai une classe en face de moi? Est-ce qu'il va... Parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir une personne avec moi qui me répète les questions des élèves. Donc, est-ce que je fais passer le micro? Et ça, en fait, c'est encore quelque chose bah, qui me perturbe. Je sais que je vais être prof, mais je sais pas comment je... Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a jamais freiné dans mon orientation d'être prof, puisque j'adore enseigner, j'adore parler. Et voilà, ça m'a pas vraiment freiné. Mais c'est vrai que plus ça avance, quand je rencontre des gens, ils me demandent, ils me disent, mais par rapport à ton orientation, déjà, comment t'as fait pour arriver jusqu'ici? Et puis après, comment tu vas faire dans ton futur métier d'enseignant? Voilà, donc c'est un petit peu compliqué parfois.
Est-ce que c'est cette question d'être prof, des fois tu te demandes dans quelle mesure tu veux être prof pour des élèves valides, ou est-ce que tu envisages la possibilité d'être prof pour des personnes qui pourraient elles aussi être malentendantes, ce qui du coup pourrait peut-être faciliter les choses parce que du coup une même compréhension de ce que ça implique, notamment au niveau du matériel, du micro, etc.
Alors ça, je me suis déjà posé la question parce que je me suis dit, alors le problème que j'ai, c'est que enseigner donc à des malentendants, ça va, mais le problème c'est que je connais pas la langue des signes, donc c'est quand même un gros inconvénient. Puisque je pourrais pas avoir des sourds complètement sourds qui ne lisent que la langue des signes, puisqu'en fait je pourrais pas suivre, donc à moins que j'apprenne la langue des signes, bon ça c'est prévu, je sais pas trop quand, mais voilà. Mais donc sinon après je dirais pas non à avoir une classe de personnes qui sont malentendantes. Bon après seul souci que j'ai, c'est que j'articule pas forcément, parce qu'en fait le problème c'est que j'entends pas vraiment ma voix, et enfin pas spécialement. Donc en fait, comme j'entends pas trop ma voix, j'arrive pas trop à la gérer. et articulée. Donc ça, j'avais essayé en orthophonie à bien essayer de poser ma voix. Et en fait, quand je me retrouve face à des gens qui n'entendent pas, bah, j'ai du mal à vraiment à parler doucement, à bien articuler. Mais bon, après, si je ferais un effort, ça marcherait. Voilà. Mais c'est vrai que ça me dérange absolument pas d'avoir des élèves qui sont valides, des élèves non valides. Moi, pourvu que c'est des élèves qui soient motivés. Bon, après, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, c'est vraiment... moi, c'est, le but, c'est d'enseigner. Donc après, peu importe les élèves en face...
C'est déjà un discours de prof, c'est incroyable.
Oui.
Enfin, est-ce que tu aurais une recommandation d'ouvrage, que ce soit littéraire, filmographique, musical, peu importe, qui t'a aidé, qui t'a permis de mieux comprendre, d'accepter la différence, ou juste que tu apprécies?
Alors, déjà, moi j'ai un peu de mal avec les ouvrages qui traitent de la sourdité. Voilà. Donc par exemple, l'exemple typique que j'ai, c'est le film La famille Bélier, par exemple. Voilà, donc ce film, je ne l'ai jamais vu. Parce qu'en fait, bon, quand il est sorti, je ne me souviens plus trop en quelle année, mais c'était un peu dans... à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, je ne peux pas le voir, en fait. Je ne suis pas encore prête à voir ce type de film. Donc ce n'est pas en regardant des personnes qui ont des problèmes de sourdité, ça ne va pas m'aider. C'est vrai que moi, donc, je suis une musicienne. Donc bon, là, je suis un petit peu en pause parce que bon, j'ai beaucoup de travail et voilà. Mais c'est vrai que, bon, déjà, la première chose qui m'a vraiment aidée, c'est le contact humain. Donc ma famille, ma sœur, mes amis qui m'ont changé les idées finalement. En fait, j'avais vraiment besoin de passer à autre chose. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la musique classique. Puisque vraiment, c'était reposant. Puis je suis quelqu'un d'assez nerveuse en fait. Et ça m'a vraiment calmée. Ça m'a permis en fait un peu de m'évader un peu dans un univers... un petit peu, voilà. Et aussi, de jouer du piano, donc jouer du classique. Ça, c'est ça, en fait, qui m'a vraiment permis d'avoir du repos, un peu, d'être calmée. C'est vrai que... des fois, je prends un peu mal, parce que dans mon entourage, quand il y a des documentaires sur l'été, voilà, ce genre de choses, on me dit, oui, Emeline, tu peux voir ça. Par exemple, quand il y a dans les magazines, il me dit, oh, il y a quelque chose, voilà. Pour, par exemple, pour les acouphènes, il y a un article sur la sourdité. C'est vrai que j'aime pas trop, en fait. Bon, maintenant, ça me dérange moins, mais j'ai envie, en fait, de différencier mon problème et dans mes activités à côté, je parle pas de ce type de choses. Et vraiment, la musique classique, ça repose et moi, ça m'a vraiment fait évader dans un monde, parce que des fois, je suis pas trop dans le monde réel, je pars un peu dans mes pensées, voilà. Et vraiment, c'est... Et bon, ce que je préfère, c'est par exemple c'est Chopin et Beethoven, vraiment au niveau des compositeurs. Et aussi, il y a pas forcément de la musique classique, mais il y a aussi la musique de Hiroshima. Et donc ça, c'est vraiment des musiques qui me reposent. Et c'est vrai que quand, même maintenant, quand je vais pas bien, pas forcément, parce que des fois j'ai un peu des rechutes vis-à-vis de la sourdité, je me dis j'ai pas pu faire telle chose, voilà. Bah c'est vrai que je les écoute et ça me... enfin pas ressource, mais un petit peu quoi.
Eh bien, merci beaucoup Emeline d'avoir accepté de revenir dans le monde réel pour nous et d'avoir répondu à mes questions. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était Indifférence, l'émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor et produite par Marie Brunner.